Chapitre 4. Inès ne revit Don Miguel que deux fois, jusqu'au jour fixé pour son départ. Encore ces entrevues furent-elles très brèves, l'un et l'autre semblant avoir également hâte de les voir finir. Dans l'une d'elles, il lui apprit un fait qui allait changer sa position et celle de son frère. Par les agents secrets qu'il possédait un peu partout, il avait su récemment que M. de Blangard avait si bien administré la petite fortune de ses pupilles qu'il n'en restait plus que le quart environ, c'est-à-dire un revenu incapable de faire vivre le frère et la sœur. « Je travaillerai, » dit courageusement Inès. « J'ai mes brevets, je suis bonne musicienne. Jacques se fera une position lui aussi. » « Certainement, au collège, nous obtiendrons une réduction du prix de pension. Mais alors, il nous faudra vendre notre chère Rivaldière. Vos revenus, en effet, ne vous permettraient pas de la conserver, mademoiselle. »« Pauvre Rivaldière !» dit-elle, les larmes aux yeux. Don Miguel sembla réfléchir pendant un long moment. Sous ses cils baissés, ses yeux émus considéraient le visage attristé de la jeune fille. « Donia Inès, vous allez me permettre d'offrir à Jacques quelque chose, » dit-il tout à coup. « Quoi donc, monsieur ? Vous avez pu voir que l'or ne manque pas ici. Jacques en prendra ce qui lui plaira. » Elle l'interrompit du geste. « Vous êtes très bon, très délicatement généreux, Don Miguel, » dit-elle avec émotion. « Mais mon frère ne peut accepter un don de ce genre. » Il travaillera pour vivre, le travail est chose très noble qui élève l'homme. Certes, il nous coûtera de voir la chère Rivaldière passer en des mains étrangères, mais ce sont là des sacrifices inhérents à l'existence, et nous sommes trop chrétiens pour ne pas accepter celui-là courageusement, après les premiers moments de chagrin. Vous êtes une âme forte, Donia Inès. J'admire surtout cette foi qui vous anime. « Parfois, je pense qu'il doit être bien doux de croire comme vous. » Le regard grave d'Inès se leva vers lui. « Oh oui, cela est si bon de penser que nous avons un père toujours prêt à nous écouter, à nous fortifier dans nos défaillances, à nous consoler dans nos douleurs. » Ils restèrent un moment silencieux, suivant vaguement des yeux les mouvements de Jacques, de M. de Salve et de deux autres jeunes gens, sujets du roi des Andes, qui jouaient au tennis, car il y avait un tennis à Solepto. Ce vous serait-il donc une consolation si, au lieu de tomber en des mains inconnues, la Rivaldière était achetée par moi ? Demanda tout à coup Don Miguel. « Oh oui, vous n'êtes plus un étranger pour nous !» dit-elle, sans pouvoir empêcher un peu de rose de monter à ses joues. « Mais il ne faudrait pas que, par bonté, vous vous embarrassiez d'une propriété qui vous serait inutile. Je vous promets d'aller y passer quelques jours à chacun de mes séjours en France, » dit-il en essayant de sourire. Mais il était très pâle et prit presque aussitôt congé d'Inès, très émue elle-même, car de plus en plus, elle se convainquait qu'elle était ardemment aimée, bien que Don Miguel ne fût jamais sorti de la réserve respectueuse dont il avait toujours usé envers elle. Le jour du départ vint enfin. Alonso, en larmes, couvrit de baisers les mains d'Inès, qu'elle avait entourée jusqu'au dernier moment des soins les plus dévoués. Depuis surtout que la jeune fille avait obtenu la grâce de Vicente, celle-ci était toujours en prison, mais Alonso espérait que le maître pardonnerait un jour. La pauvre femme ne savait quelle marque de reconnaissance imaginer. « Oh, pourquoi ne restez-vous pas, seigneurita ? » dit-elle entre ses sanglots. « Si vous vouliez, comme Solepto sera triste sans vous. Tous ici avaient plaisir à vous voir. On vous appelait la petite reine. Mais moi, surtout, qui vous aime tant, ma douce seigneurita. » Inès se pencha, mit un baiser sur le front ridé de l'Indienne. « Moi aussi, je vous regretterai, bonne Alonso. Adieu et merci !» Et sentant que son émotion allait éclater, elle sortit de cette chambre où elle avait vécu pendant quelque temps paisible et choyée dans la tranquille sécurité de Solepto. Monsieur Hamlet et Bille l'attendaient dehors, bien émus tous deux. Pendant les jours de sa convalescence, Inès avait eu avec lui des entretiens où ils avaient abordé la question religieuse. Inès était plus instruite sous ce rapport que la plupart des jeunes filles, même très chrétiennes. Elle avait, en outre, l'esprit très lucide, la réflexion très prompte et très juste. En quelques jours, elle avait réussi à enlever à Bille bon nombre de préjugés et d'idées toutes faites contre la religion, fruit de propagande électorale, de tendances de journaux anticléricaux et des discours de sectaires. « Ben, mademoiselle Inès, c'est comme ça que vous abandonnez ma conversion ?» dit-il en serrant avec vigueur la main que lui tendait la jeune fille. « Vous auriez bien pu rester encore un peu, dites. Personne ne s'en plaindrait, pour sûr. »« Qui sait, vous viendrez peut-être me voir à Paris, Bille, » dit Inès en essayant de sourire. « Si vous vous montrez fidèle, il est possible que Don Miguel cesse de vous traiter comme un prisonnier. » « Tiens, ça m'amuserait de rentrer à Paris comme frère de la justice. Je jouerai des tours aux gros profiteurs, ce serait très drôle. Et j'irai vous faire une petite visite, pour sûr, mademoiselle Inès et monsieur Jacques. » Tout en parlant, il s'était acheminé vers l'ascenseur. Sur le parcours, tous les habitants de Solepto étaient là, saluant une dernière fois les deux jeunes gens que tous appréciaient et aimaient. Don Miguel attendait près de l'ascenseur. Il allait accompagner jusqu'en bas ses jeunes hôtes et les remettrait là au bon soin d'un de ses lieutenants, un Français, qui les escorterait avec une dizaine d'hommes jusqu'en un point de la montagne où ils trouveraient un arrière affilié aux frères de la justice. Celui-ci les conduirait à Lima où M. Selvado, prévenu par Don Miguel, s'occuperait de les rapatrier. Une dernière poignée de main à M. Hamlet, à M. de Salve, à Bille, au bon Don Sanche ému, à Don Esteban sans rancune. L'ascenseur commença à descendre doucement. Une dernière fois, Inès embrassa du regard la mystérieuse cité, toute baignée de la clarté dorée du soleil, toute charmante et coquette, avec ses maisonnettes claires et ses jardins, que dominait le pavillon du roi des Andes. Et malgré toute sa force de volonté, elle sentit qu'une larme glissait sur sa joue. Don Miguel, debout à quelques pas d'elle, les bras croisés, la regardait. Il semblait qu'il voulût se remplir les yeux de son image, maintenant qu'il allait la perdre. Quand l'ascenseur s'arrêta, il aida la jeune fille à descendre. Les hommes attendaient là, avec des mules et des provisions. Inès tendit ses deux mains à Don Miguel en levant vers lui ses yeux graves et tristes. « Merci encore. Jamais je n'oublierai votre bonté, votre délicatesse et surtout comment vous avez risqué votre vie pour me sauver. » Elle essayait de réprimer l'émotion qui la faisait frémir des pieds à la tête. Mais ce fut en vain et ses beaux yeux se remplirent de larmes. Emporté par la souffrance qui lui broyait le cœur, Don Miguel murmura d'un ton de prière ardente « Si vous vouliez rester !» Elle devint plus pâle encore et ses mains tremblèrent. « Vous savez bien que c'est impossible » dit-elle d'une voix étouffée, mais où passait un souffle de fermeté. « C'est vrai, je suis fou. Adieu, Doña Inès !» Il effleura de ses lèvres les doigts de la jeune fille, puis, se détournant brusquement, serra avec vigueur les mains de Jacques. « Adieu, mon cher Jacques, et si jamais vous avez besoin de moi, n'oubliez pas que je resterai toujours votre ami dévoué. » Quelques instants plus tard, la petite caravane s'ébranla. Don Miguel suivit des yeux, tant qu'il le put, la jeune fille montée sur une des mules. Quand elle eut disparu, il passa sur son front une main qui était glacée. Une page de ma vie qui s'efface, une page exquise et douloureuse. Maintenant, il faut me remettre à l'œuvre. Mais je ne me sens plus le même zèle. Elle a introduit en moi un doute sur la parfaite honnêteté des moyens que j'emploie et même sur l'efficacité du but poursuivi. Qui a raison, d'elle avec sa bonté et sa compassion ou de moi, le justicier impitoyable ?